Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche, Cases et Bulles, où nous poursuivons avec Christol cette exploration de l'été sur les débuts de la bande dessinée, les fondateurs. Voilà, on va aujourd'hui nous intéresser, nous allons aujourd'hui, pardon, nous intéresser aux comics. Voilà, donc on a déjà traité de la bande dessinée américaine et de ses origines, mais il est temps d'aborder en fait ce qui constitue à proprement parler la révolution dans la bande dessinée et sans doute le point de divergence entre les États-Unis et le reste du monde. C'est en 1938 l'apparition de Superman. Pourquoi une telle divergence? Parce qu'il y a déjà eu des super-héros en Europe, y compris en France. La maison d'édition Huggins & Muggins avait publié un volume tout à fait intéressant sur les premiers super-héros européens qui ont été effectivement, eux aussi, dotés de super-pouvoirs, habillés de costumes ridicules et vivant des aventures fantastiques, et d'ailleurs moins fantastiques sans doute que grotesques. Mais ce sont les États-Unis et singulièrement Superman qui vont devenir une véritable terre d'élection des super-héros, puisque avec Superman, voilà le modèle est inventé, il devient canonique. Il y a des gens parmi nous qui ont notre aspect, peu ou prou, et qui sont capables de prouesses absolument stupéfiantes. Et ils servent bien sûr l'humanité, singulièrement les États-Unis. C'est un peu comme dans les films d'extraterrestres. Chaque fois qu'ils débarquent, c'est forcément entre Washington et San Francisco. Et les États-Unis vont peu à peu devenir drogués, si j'ose dire, aux super-héros, pendant que le reste de la bande dessinée mondiale, et vous avez remarqué évidemment que nous n'avons pas du tout abordé l'Asie dans cette histoire de la bande dessinée. Alors
Pas
pourquoi nous
encore.
ne l'avons pas encore? Mais voilà, on n'a pas abordé. Aussi parce que c'est une découverte tardive, en fait, par l'Union, par l'Europe, de la bande dessinée asiatique qui reste un marché de niche, qui reste un produit d'experts avant que dans les années 80-90, ça y est, les mangas débarquent, surtout avec le manga Akira. On y reviendra peut-être, sinon cet été, du moins les étés suivants. Les États-Unis donc inventent le super-héros et ça devient une inflation. Et à côté des bandes dessinées policières, à côté des bandes dessinées guerrières, le comics, qu'il s'agisse du comic strip, c'est-à-dire de la bande comique qui paraît en juste bande par bande dans les journaux ou des comic books, donc où maintenant les journaux reproduisent des bandes dessinées, mais aussi il y a une littérature de bande dessinée spécifique, donc le comic book, des petits fascicules avec un format de planche inférieur au format des illustrés pour enfants ou jeunes adolescents européens, eh bien devient un territoire sous dépendance du super-héroïsme. Et c'est véritablement quelque chose de nouveau, à la fois donc par le thème, par la prodigieuse inventivité des super-héros, et aussi, en fait, parallèlement ou en même temps, comme dirait Emmanuel, par la prodigieuse pauvreté en fait du thème, puisqu'on passe son temps à inventer un super-héros qui n'est qu'une espèce de variation par rapport au super-héros initial. Le super-héros initial lui-même, d'ailleurs, absorbant toutes les idées des autres, puisque donc Superman deviendra évidemment Superwoman, Supergirl, Supergirl, Superdog, et que peu à peu, celui qui se contente d'être extrêmement fort va aussi avoir sa citadelle dans les glaces et un ensemble de super-héros, avec bien sûr ce qui fait enfin, et vous me pardonnerez cette introduction très longue, la spécificité des super-héros américains, c'est qu'ils appartiennent à des écuries. C'est-à-dire, il y a des maisons d'édition qui produisent à la chaîne des super-héros et chacun détient des franchises et dont ils sont jaloux. Et ce sont des franchises qu'ils défendent évidemment pied et poing d'un point de vue légal. Et donc, personne n'a le droit de copier Superman jusqu'à ce que la justice décide que Batman est suffisamment différent de Superman. Et d'ailleurs, on voit bien que d'une certaine manière, Batman n'est inventé que par opposition à Superman. Voilà, déjà, il n'a aucun super pouvoir, Il se contente d'être extrêmement fort, extrêmement intelligent, extrêmement riche, ce qui effectivement l'assimile peu ou prou à Bernard Arnault quand il était plus jeune. On a dans les super-héros et surtout dans les maisons d'édition qui les défendent, des éditeurs qui creusent un sillon, le sillon de l'horreur, le sillon de la guerre, le sillon de l'érotisme évidemment, et le sillon des équipes de super-héros, puisque les univers peu à peu vont s'entrecroiser. Bon, là, je suis en train d'anticiper sur ce que seront les comic books après 1960 avec l'arrivée de Jack Kirby, mais déjà dans les prémices de ce super-héroïsme qui continue à sévir en bande dessinée et sur les écrans, avec heureusement une bien plus grande variété et une manière beaucoup plus intéressante, adulte, dirais-je, comme on parle d'une littérature voilà, qui a quitté les balbutiements de la jeunesse. Eh bien, il y a dans cette bande dessinée des débuts quelques perles et évidemment à côté de ces perles quelques cailloux. Voilà, j'ai monopolisé quasiment tout le temps de parole. Merci beaucoup, Christol. C'est toi qui a pioché le sujet et donc tu t'es lancé avec passion dans l'exploration de Superman.
Oui, merci Richard. J'ai aussi ajouté l'immense succès de ces comic books, notamment ceux destinés aux super-héros dans les années 30 et les années 40. Et pour expliquer ce succès, il faut aussi rappeler aussi la forme de ce produit. Ce sont des cahiers de 20-30 pages, papier souple, et ça coûtait pas cher du tout. Et c'était tiré pour les plus grands héros à 1 million d'exemplaires, voire plus. Donc effectivement, on imagine le grand succès. Alors comment est arrivée l'idée des comic books? On va le rappeler très rapidement parce que il y a toujours un lien entre l'art et l'argent. Et voyez-vous, il faut imaginer dans un supermarché un vendeur qui s'appelait Max Gaines, qui vend aussi les comic strips, mais qui sont dans les journaux, comme on l'avait dit il y a 2 semaines pour le premier épisode sur la bande dessinée américaine. Donc les bandes dessinées se trouvent uniquement dans les comic strips des journaux. Eh bien, vois-tu, Richard, que ce vendeur a l'idée de relier plusieurs comic strips dans un seul volume, un comic book. C'est le premier comic book, et tout de suite, le public est séduit parce qu'il était très dur pour le public de pouvoir suivre différents épisodes, puisqu'il fallait acheter tous les journaux. Et là, en fin de compte, ce produit n'est pas vendu. Ce produit est offert à tous les acquéreurs de tant de produits d'hygiène. Tu achetais 10 savons, tu avais ton comic book. Donc on imagine des gens comme toi et moi qui ont fait la queue uniquement pour acheter 10 savons, 20 rasoirs et 30 shampoings pour ressortir avec tous les comic books. Et en quelques semaines, non seulement les comic books sont partis, mais également les savons, les shampoings, les rasoirs. Il n'y en a plus dans le supermarché. Tout le monde se les est procurés pour avoir les comic books. Immense succès dû à la forme et dû aussi au fond. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment Superman. 1938 qui apparaît. Et il faut aussi révéler, si on veut s'interroger à l'idéologie des super-héros, et notamment commençons par celle de Superman, que ce super-héros a été créé par deux Américains d'origine juive. Et lorsqu'on connaît l'histoire de Superman, on peut faire un parallèle avec la Bible. Pour ceux qui s'en souviennent, peut-être pas les comic strips, mais au moins les films, eh bien, il faut imaginer sur une planète lointaine, la planète Krypton, qui va bientôt disparaître. Les parents envoient leur enfant dans un petit vaisseau spatial à travers l'univers pour qu'il atterrisse sur Terre. Cet enfant sera élevé dans une autre culture, forcément, par une famille qui s'appelle les Kent, pardon. Eh bien, on fait le parallèle avec Moïse. Ses parents, pour le sauver, l'ont mis dans une nacelle sur le Nil. Il a été recueilli par un peuple de notre culture, la culture juive. Et Moïse, comme le héros, va essayer d'inculquer au peuple qu'il reçoit une nouvelle vision. Et il faut dire que ces deux personnes d'origine juive ont plaqué un épisode de la Bible, mais également leur idéologie, parce qu'ils étaient plutôt progressistes. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, parfois, les super-héros, au lieu d'être de grands conservateurs, sont des progressistes. Et il faut rappeler que Superman est créé en 1938, c'est la fin de la Grande Dépression. La situation sociale aux États-Unis n'est encore pas très brillante. Et donc, Superman, dans les premiers épisodes, va combattre des hommes d'affaires, des politiciens, réhabiliter des immeubles délabrés pour les pauvres, on ne peut pas s'en plaindre. Mais c'est pas une version, c'est pas la vision qu'on a actuellement dans les films. C'est plus une vision sociale qu'apparaissait dans les premiers Superman. Mais ça n'a pas empêché de devenir quand même un emblème culturel américain. Et d'ailleurs, là-bas, on se permet tout aux États-Unis. Lorsqu'on veut appeler quelqu'un de super fort, on choisit le nom de Superman. C'est très simple. C'est brut. Ça plaît aux Américains. Et comme tu l'as dit, a été créé après Batman. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un éditeur concurrent. C'est le même éditeur qui, face au succès de Superman, c'est Detective Comics, DC Comics. Et donc, les éditeurs ont l'idée de créer un autre super-héros pour engranger encore plus d'argent. Il doit être différent pour séduire un public différent. Et c'est Batman. Et donc, Batman, on va pas faire l'historique de chacun des super-héros, mais dans son apparat, comme tu l'as déjà dit, il peut paraître à nos yeux européens aussi ridicule que Superman. Alors que Superman avait une cape et des collants bien serrés, Batman habillé tout de noir, un peu comme une chauve-souris. Bon, on peut trouver ça grotesque, mais là-bas, ça a plu énormément. Si ce n'est que Batman, c'est pas forcément la même idéologie que Superman. Batman, ça fait penser un peu peut-être à l'inspecteur Harry, dans la vieille série de films. C'est le héros solitaire qui dézingue toute la criminalité qui existe dans la ville, parfois en s'appuyant sur la police. Et il n'y a pas d'idée d'idée, les héros, les riches, les pauvres. Faut quand même signaler que Batman est milliardaire, plutôt ses parents étaient milliardaires, et c'est grâce à cette fortune qu'il a pu construire la Batmobile, et tous ses accessoires, à gadgets. Bon, c'était une autre idéologie, mais il a été conçu ainsi, ce héros, pour plaire, sans doute à un autre public. Et après, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est la guerre, la Seconde Guerre mondiale, avant
Alors,
même que les États-Unis croient.
il arrive aussi Wonder Woman. Voilà,
Alors, Wonder
il y
Woman,
a, et
oui,
puis
mais
là, oui,
tout
vas-y, je
ceci,
t'écoute.
ils sont arrivés dès 30, après 39, c'est-à-dire aux États-Unis, des éditeurs ont créé de nouveaux super-héros et les ont envoyés sur le front combattre l'Allemagne nazie, mais avant même que les États-Unis ne rentrent en guerre. C'est le cas notamment de Captain America, créé le 20 décembre 1940, qui, dès le premier album, donne un grand coup de poing dans la face d'Adolf Hitler, alors même que les États-Unis ne sont pas encore en guerre.
Alors, oui, alors, tout à fait. Captain America débarque. Alors, lui aussi est une espèce de super-héros. Enfin, non, c'est un super-héros tout court, qui a évidemment quelques caractéristiques différentes. D'abord, il est extrêmement patriote et il ne défend que les États-Unis, même si évidemment, en défendant les États-Unis, il défend le monde entier. Et il a d'emblée aussi quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire il n'est pas hors la loi, il n'est pas criminel. Dire Batman est aussi bien pourchassé par la police qu'il est aidé par le commissaire Gordon, et Superman évidemment se pose largement au-dessus des lois, même s'il a un côté légaliste un peu crétin. Captain America, lui, voilà, est un soldat, donc il est en guerre, mais il est en guerre aussi contre les mauvais Américains, ceux qui ne veulent pas se battre, ceux qui se battent mal. Et donc on sent, et c'est un peu l'évolution du personnage des origines à nos jours, qu'il va, tout en restant à l'intérieur de l'armée des États-Unis, témoigner d'un esprit d'indépendance et même de rébellion vis-à-vis de la hiérarchie, qui n'est là que pour manifester que certains, évidemment, ont oublié le rêve américain et le servent mal, alors que Captain America est tout entier dédié à son pays. Captain America a un bouclier qui est forgé dans un métal spécial. Et là aussi, c'est une des nouvelles, comment dire, caractéristiques des super-héros qui débarquent. Ils ont parfois un objet magique. Voilà, on pense à celui à plus tard, une fois que Kirby les aura tous développés, au marteau magique de Thor. Mais Wonder Woman, tu as raison, évidemment, elle arrive après la guerre, tu as parfaitement raison. Wonder Woman et elle avec son lasso magique. Il y a une série de une série d'objets, d'attributs physiques qui constituent le super-héros, qui ne se contente plus d'être par lui-même et par son costume.
Oui, Captain America, tu l'as dit, il est plutôt d'esprit, lui, nationaliste américain et conservateur. Même si dans les années 70, c'était un peu l'époque gauchiste dans le milieu culturel aux États-Unis, il s'occupera vraiment de la pauvreté et luttera contre le racisme aux États-Unis, contre la corruption politique également. Mais en tout cas, dans les années 40, c'est un pur héros destiné à entraîner les jeunes Américains dans le combat en Europe. Et parallèlement à cela, un an après, donc en octobre 1941, sort Wonder Woman. Alors, Wonder Woman, on pourrait se dire, tiens, c'est plutôt sympathique, maintenant on passe à une femme. Tiens, c'est intéressant sur le plan culturel, il y a un lien avec la mythologie grecque, puisque Wonder Woman était l'une des tribus amazones qui a participé à la guerre de Troie. Mais vois-tu, voyez-vous, chers auditeurs, il faut savoir que le créateur de Wonder Woman, William Moulton Marston, était un féministe convaincu. Et en fin de compte, dès les années 30, ce docteur en psychologie annonçait émerveillé que dans les décennies futures, et c'est ce qu'il souhaitait, les États-Unis deviendraient un matriarcat, une nation d'Amazones. Il n'aimait pas l'homme, il aimait vraiment la féminité. Il pensait que les États-Unis devaient être gouvernés par les femmes et tous les postes importants devaient être réservés aux femmes. Et c'est dans cet esprit-là qu'il crée Wonder Woman, donc une super-héroïne qui, elle, a des pouvoirs d'origine mythologique, assez ridicule à nos yeux européens. Alors, elle a aussi son petit costume de super-héroïne, elle a une tiare ou un diadème doré, et elle a un lasso magique qui permet de détecter le mensonge, des bracelets à l'épreuve des balles. Bon, on peut en rire, mais là-bas, effectivement, comme les super-héros, elle a obtenu un énorme succès, chacun de ses comic books étant tiré à entre 500 000 et 1 million d'exemplaires. Donc, pendant les États-Unis, pendant la guerre, alors que les hommes étaient sur le front, les femmes, pour beaucoup, fabriquaient des obus, étaient dans les champs, et elles lisaient Wonder Woman. C'était une grande réussite à l'époque, même s'il y avait un aspect féministe qui aujourd'hui peut un peu nous désarçonner.
Voilà, donc c'est effectivement désarçonnant. Donc, évidemment, je l'avais souligné tout à l'heure, ces super-héros appartiennent aux éditeurs et donc ils ont parfois une postérité incroyable. Certains vont mourir avec l'éditeur, parfois le catalogue de l'éditeur, exactement comme un catalogue de disques ou de films, se revend avec les super-héros et le nouvel éditeur pioche dans les héros existants pour leur redonner une nouvelle vie. C'est l'époque où Green Lantern paraît, c'est l'époque où aussi il y a Namor l'Atlante, c'est l'époque du Spirit. Donc, autrement dit, des héros qui ont, je parle surtout de Green Lantern, eu une postérité bien plus longue et des déclinaisons bien plus importantes que celles qu'imaginait l'éditeur et le couple dessinateur-scénariste initial. Les super-héros donc sont une création collective, même si évidemment certains dessinateurs tiennent ferme la barre et restent jusque le plus longtemps possible aux commandes. D'autres ne sont que une des équipes qui travaille sur le super-héros, Batman et Superman, sont démultipliées. Et d'ailleurs, les personnages de Disney eux-mêmes paraissent en comic book avec, là aussi, plusieurs produits. Et c'est pendant la guerre, d'ailleurs, que Donald Duck va devenir le héros d'une histoire. On a, avec les Américains, véritablement l'invention d'une littérature partagée où le lecteur se voit fournir son super-héros à toutes les sauces possibles. Et avec d'ailleurs, de la part du lecteur, des réactions vives et certaines, c'est-à-dire si tel super-héros dessiné ou scénarisé par tel ou tel couple ne plaît pas, eh bien la série s'arrête, le couple passe à la trappe, il est obligé de s'employer autrement. Ou au contraire, voilà, le héros se retrouve reparti à la tête des ventes, puisque après telle ou telle expérience malheureuse, tel ou tel écart, les Américains ont l'impression d'avoir à nouveau la saveur des super-héros initiaux. Cette littérature proprement américaine se vend dans le monde entier, évidemment en Europe, où donc dans les journaux européens, y compris français, on retrouve les comic strips qui sont non seulement ceux que nous avions cités précédemment, la famille Lico, etc., mais aussi ces nouveaux super-héros, jusqu'à ce que la guerre, évidemment, empêche la publication, la plupart des pays sous occupation allemande arrêtant les contrats et permettent d'ailleurs de développer de nouvelles bandes dessinées spécifiquement européennes, avec par exemple, l'exemple le plus emblématique étant Edgar P. Jacobs qui est obligé d'imaginer la suite des aventures de Flash Gordon et qui finit par développer une bande dessinée totalement originale dont j'oublie désespérément le titre actuellement.
Le rayon
Tu vas
U.
m'aider. Pardon? Le
Le
rayon
rayon
U, voilà,
U.
parfait. Merci beaucoup. Qui est une espèce de prototype des aventures de Black et Mortimer. Donc Green Lantern, Sandman, Flash, évidemment, sont des gens qui apparaissent au fur et à mesure que la guerre continue, sans oublier, bien sûr, voilà, je l'ai cité rapidement, donc d'autres super-héros comme tous ceux développés par Disney, mais aussi les adaptations en bande dessinée de Bugs Bunny, puisque donc les Looney Tunes du cinéma connaissent une adaptation. Et là aussi, c'est une spécificité américaine. Quand on tient une franchise, on la décline. Voilà. Donc, si j'imagine un héros, j'imagine la bande dessinée, j'imagine le roman, donc ce qui s'appelle de ce terme horrible la novélisation. Donc, j'imagine aussi les produits dérivés. Et ces produits dérivés peuvent être aussi bien un roman qu'une adaptation télévisée. Donc, en fait, le héros est décliné de toutes les manières possibles, là où en Europe, si jamais on tient un héros qui est dessiné, il va rester dessiné. Si on tient un héros qui est écrit, il va rester écrit. Il n'y a pas de bande dessinée emblématique qui est adaptée à Arsène Lupin, quel que soit le succès incroyable du personnage. Pas non plus de bande dessinée de rocambole. Il y a parfois, rarement, une adaptation en bande dessinée de telle ou telle aventure, mais sans qu'il y ait ce principe de la franchise qui vienne vraiment prendre le pas sur le reste.
Et c'est si vrai que le public va finir par se lasser. On est en 1945 et le public américain commence à en avoir assez des super-héros. Donc ça se vend beaucoup moins qu'avant. Subsiste quand même en vente Superman, Batman, Wonder Woman. Mais sinon, il y a un premier coup d'arrêt aux super-héros en comics. Le public est lassé. Et un deuxième important coup d'arrêt, c'est ce qu'on appelle le Comic Code. Alors, il faut comprendre qu'en 1948, à partir de 48, une partie des hommes politiques américains, se méfiant du communisme, pourchassent aux États-Unis tout ce qui pourrait être gauchiste ou communiste, et certains décèlent dans les comics quelque chose qui leur déplaît fortement. On voit dans Wonder Woman une pointe d'homosexualité féminine, on voit dans Batman et son ami Robin une pointe d'homosexualité masculine. On a peur que la lecture de comics abrutisse la jeune génération. Et donc, pour répondre à ces craintes-là, c'est directement les éditeurs de comics qui se mettent d'accord tous entre eux pour établir le Comics Code. Et donc, ils vont s'interdire les uns les autres, dans leurs comics, de critiquer la famille, la patrie, la religion. Et ça va durer comme ça quelques années. C'est le deuxième coup d'arrêt à l'inventivité qu'il y avait dans les comics, puisque quand on est tenu par un carcan, qu'il soit justifié ou non, on a moins de créativité, on baisse en qualité souvent. Mais vous le savez comme moi, il y aura un nouvel âge des super-héros. Ça va être l'arrivée des grandes séries Marvel avec Hulk, Spider-Man. Mais là, on n'est plus vraiment dans la naissance de la bande dessinée aux États-Unis, puisqu'on arrive dans les années 50, même 60-70. C'est encore une autre histoire.
C'est encore une autre histoire et donc nous continuerons à vous la raconter cet été. Merci beaucoup Christol, merci beaucoup chers auditeurs et donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Planche Cases et Bulles.